À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
On est à deux, c'est mieux, à la bouffe Tiffany avec Andréane Amalette. Salut.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi-même.
Oui, ça va bien. Andréane, on a entendu Fou,
ouais.
Qui est la chanson qui a donné le coup d'envoi.
Vraiment.
À ce projet-là, et qui a été un super hit.
Pour absolument, toi.
Est-ce que tu t'attendais à ça?
Ben non, aucunement. On ne peut pas s'attendre à ça.
On espère.
Le premier album avait bien marché en radio, mais jamais autant que ça, donc j'avais pas d'attente. Puis je ne l'ai pas composé ou créé dans le but d'en faire un hit non plus. C'était vraiment comme voici le son que j'ai maintenant, voici ce qui me représente maintenant. Puis il y a eu un super accueil, donc je suis bien contente.
16 semaines.
Numéro 1.
Tête du palmarès de la disque. Ensuite, tu as décidé quand même de lancer ici et ailleurs.
Oui.
Et les deux se sont chevauchés.
C'est oui, ici, sur ailleurs, bumpé en bon français.
Oui, c'est fou. Ça. Parce que d'habitude, on dit on va attendre que le premier extrait ait fini sa vie de radio pour en lancer un deuxième. Toi, tu as décidé de le faire
tout de suite. Tout de suite. Oui, je trouvais qu'elle avait fait son temps. Fou, je voulais pas non plus écœurer les gens. Elle tourne encore beaucoup. Je voulais présenter autre chose pour que les gens entendent un peu ce qu'il y a sur l'album aussi. Puis il y en aura un autre qui s'en vient aussi bientôt, même si Ici ailleurs est encore dans le top 10, si c'est pas le top 5. Là.
Donc le but, c'est de lancer le plus d'extraits pour faire connaître plus de chansons sur l'album?
Oui, absolument. Faire connaître le matériel au complet. Chaque chanson a vraiment son univers. Les singles radio sont représentatifs de l'album, mais c'est sûr qu'il y a certaines chansons sur l'album qui sont beaucoup plus folk, que j'ai envie de faire découvrir aussi. Donc, j'ai pas tant de stratégie, comme tu peux voir. Je veux juste faire découvrir mes chansons.
Ce projet-là a commencé par des spectacles que tu as fait où tu as voulu que les gens donnent leur... opinion
ouais.
sur ce que tu faisais. Donc, au lieu d'avoir une équipe qui décide avec toi des chansons, c'est ouais. les gens qui achètent des disques
ben absolument.
Qui ont décidé et qui vont à des shows aussi.
Tout à fait. Tu sais, je produis tout maintenant, puis ça fait en sorte que j'ai le nez vraiment collé sur mon projet. J'ai pas un œil extérieur tant que ça. Donc, j'ai utilisé, entre guillemets, le public pour être les directeurs artistiques de cet album-là. Je me suis dit, comme tu as dit, de toute façon, c'est eux qui écoutent.
Ouais.
La musique, moi je m'écoute pas dans mon char, sauf des fois les fenêtres fermées, puis je veux pas que personne le sache. Mais je voulais vraiment que ce soit représentatif de leur goût à eux, puis j'ai eu des belles surprises, honnêtement. Il y a des chansons que je m'attendais à ce qu'elles soient là, puis elles sont pas là, et l'inverse aussi.
Mais c'est comment ces shows-là, parce que là tu casses
20 carrément.
Chansons
ouais.
que tu chantes pour à peu près la première fois
exactement.
Devant un public, c'est se mettre beaucoup de pression sur les épaules, parce que généralement... On le fait des fois, casser des chansons publiques, mais enrobées de plein de chansons.
Casser en guillemets, on les a déjà faites, mais c'était vraiment ça.
Là, c'était 20 nouvelles chansons présentées devant un public.
La plupart que j'avais jamais jouées, j'étais extrêmement vulnérable. J'étais toute seule à la guitare aussi. Ça doit faire 10 ans que j'ai pas fait ça. J'ai toujours au moins mon acolyte Judith avec moi. Je fais pas de show en solo. Donc là, j'étais vraiment nue, habillée quand même, mais nue devant mon public, qui a été hyper compréhensif, indulgent. Tu sais, je le disais, on est dans mon salon, ça sera pas le show du siècle. Là. Ça se peut que je me trompe, je vais peut-être oublier des mots, mais l'important, c'est que vous ayez une idée des chansons puis une vision de ce qu'elles pourront être sur l'album. Puis c'est vraiment ça, les gens pouvaient laisser des notes, puis il y en a plusieurs qui me disaient « Ah, ça, j'entends des violons là-dessus, celle-là, je couperais le dernier refrain, c'est trop long. » Il y avait vraiment des commentaires super pertinents.
Et est-ce que c'est les chansons vraiment les plus populaires qui se retrouvent sur l'album?
J'ai vraiment respecté. J'ai fait des statistiques, en fait. Là, ils notaient de 1 à 10 leur coup de cœur.
Donc, tu as fait une moyenne j'ai pour fait chaque une... chanson.
Exactement. Okay. Donc, c'est les 12 plus populaires qui sont sur l'album.
Et mettons la 13e, donc qui était... pas loin la 12e.
La 13e a été sauvée de justesse. C'est une chanson qui s'appelle « Les marées », qui était une de mes préférées, puis je tenais vraiment à l'avoir. J'ai fait 3 shows, Montréal, Grande Baie, Québec. Montréal et Grande Baie l'ont mis comme 17e, je pense. Puis à Québec, j'ai dit « Là, écoutez-moi bien comme faut, là, imaginez-vous des violons, puis toute la patente, ça va être écœurant. » Puis ça a remonté au numéro 12, finalement. Fait que, tu m'avais dit 13e,
ouais,
t'as
ouais,
raison.
Ça.
Ouais, non, 13e, c'était...
Parce qu'elle aurait pu être sur l'album, mais ça veut pas... Ça veut dire dire que les gens l'aiment aussi parce qu'elle est juste collée à l'autre?
Ben,
est-ce qu'elle est partie à jamais? Ou
Non, c'est okay. Ça aussi. C'est toutes des chansons. Sur les 20 chansons, il y en a plein que j'aime qui sont pas là, qui seront sur le troisième album probablement, ou qui auront une vie. Peut-être que je pourrais les donner à un autre artiste aussi. Là.
Tu te produis toi-même maintenant. Tu as lancé ta propre boîte de production qui part d'un mot que tu disais plus jeune.
Non? Oui, exactement. J'ai cherché longtemps, j'avais plein d'idées pour ma compagnie, puis finalement, je me suis arrêtée sur le mot « Nia », qui, quand j'étais petite, c'est un des premiers mots que j'ai dit. J'ai dit « Papa, maman, Nia », puis « Nia », ça voulait dire « musique ».
Quand tu voulais entendre la musique?
Oui, je disais « Do Nia », ça voulait dire « d'autres musiques », puis là, mes parents tournaient la cassette ou mettaient un vinyle. Je suis quand même de cette époque-là. Fait que c'est ça. À chaque fois que je monte sur scène, avant de monter, je me dis tout le temps « j'ai 5 ans », je m'amuse, je fais comme si j'étais une enfant qui n'avait pas de pression. Puis à 5 ans, c'est ça. C'était, la musique pour moi, c'était de la Nia.
T'es devenue productrice? T'as décidé de prendre une formation par toi-même en allant consulter des sites internet, des blogs. T'avais déjà étudié à l'école de la chanson aussi. T'avais besoin d'aller apprendre ce côté-là d'entrepreneurship, de marketing qu'on connaît pas nécessairement.
Ben, j'avais ce désir-là et cette passion-là. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis faite, comme tu dis, ma propre école. Je suis allée suivre des formations. J'écoute énormément de livres audio quand je suis en voiture aussi. Je rentabilise mon temps. Fait que j'écoute.
T'as qu'à perdre ce temps-là.
Exactement. Je me forme de cette façon-là. Puis ça fait en sorte que je comprends vraiment mieux l'industrie, ce qui a fait en sorte aussi que j'ai décidé d'être productrice parce que, comprenant mieux l'industrie, je comprends aussi les contrats qu'on m'offrait puis ce qui ne fonctionnait pas pour moi. On ne peut plus m'en passer. Mais c'est une passion aussi. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de très créatif dans la portion producteur aussi.
Mais tu as aussi dit que ça développe un côté tête de cochon.
Ouais.
Et toi, tu aurais aimé mieux pas développer ce côté-là, parce que j'ai bien compris.
Oui, oui. T'sais, on dit souvent on devient des meilleures personnes. Moi, j'ai l'impression que je perds ma belle naïveté que j'avais, tu sais, puis je suis en train de devenir une tête plus forte. Cochon, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est sûr que je m'assume plus. Je sais dire non maintenant, ce qui fait peut-être de moi une meilleure personne.
Oui, peut-être.
Mais c'est ça, je mets mes limites maintenant.
Mais est-ce que c'est dur de les différencier, les chapeaux? Parce que il y a la productrice gérante et il y a l'artiste. Généralement, ces deux items-là ne vont pas nécessairement ensemble. L'artiste passe sur des idées de grandeur et tout ça, mais c'est le producteur qui fait « wow ».
Ouais, moi, je te dirais que c'est plus l'inverse. Le producteur est comme « ah oui, on le fait ». Pas de limite. Puis l'artiste dit « t'as peur, je t'ai épuisé, on n'a pas le temps ». Mais c'est assez simple pour moi, je te dirais, mais ça devient plus compliqué parce que je me suis quand même bâti une équipe. Donc, des fois, quand j'envoie des courriels plus sérieux, ben là, je signe Andréane, la productrice. J'essaie vraiment de... Des fois, je dis « OK, là, je mets mon chapeau de productrice pour avoir cette conversation-là avec toi ». Des fois, je dis « l'artiste s'en fout, mais la productrice n'a pas le choix de te dire que ça, c'est pas correct ». Fait que je suis un peu bipolaire, là, de personnalité multiple, je sais pas trop ce qui se passe.
Mais le soir du lancement au Corona, est-ce que c'était
intense.
Dur de séparer les deux? Parce qu'évidemment, la productrice veut que ce soit une soirée qui marche bien, que tout ça, ça soit rentabilisé. Puis l'artiste veut juste avoir du fun, puis présenter ses nouvelles chansons, puis que ça marche.
Ce qui est difficile, c'est que c'est souvent l'artiste qui prend le bord parce que la productrice veut s'assurer que tout est correct.
Puis que tout le monde est correct dans
la salle. Que tout le monde est correct, c'est ça. Puis l'artiste a des bons réflexes aussi, que même si j'arrive 4 minutes avant mon spectacle, ça fait longtemps que je fais ça, je sais que je vais être capable d'assurer, même si je suis pas super confortable. Fait que la productrice prend beaucoup de temps, prend beaucoup de place, puis le soir du lancement, je m'étais donné quand même un deadline. Jusqu'à 4h30, je suis productrice. Après ça, je me fais maquiller, je me prépare, puis je vais sur scène. Donc, je m'étais bien entourée, j'avais mandaté certaines personnes.
Il fallait,
à partir de 4h30, ils ne venaient même pas me voir, prenez des décisions, je vous fais confiance, puis ça va être ça.
Mais il faut faire ça.
Il faut. C'est difficile, mais il faut.
Et là, il faut choisir, il faut s'entourer.
Oui, des bonnes personnes, exactement.
Oui, parce qu'on leur laisse tout ça entre les mains après.
Oui, c'est un petit bébé, là. Il faut que tu le fasses garder par la bonne personne.
Est-ce qu'il y avait un track ce soir-là? Est-ce que c'était différent du premier album? Pour toutes
Totalement.
Ces raisons-là aussi, parce que premier album, grosse équipe autour de toi, évidemment, suivant tout ce qui s'est passé avec Starac.
Mm-hmm.
Là, il y a eu du temps entre les deux. Tu deviens productrice
et
là, tu assumes beaucoup de choses. Est-ce que c'est différent comme track?
J'étais moins stressée, honnêtement, parce que j'étais en contrôle
parce
de
que tu savais
tout.
Tout.
Je savais tout ce qui se passait, exactement. Puis, ça a vraiment mieux été au niveau du stress, au niveau du son. On s'entend le lancement de Bohème, j'étais complètement à fun, là, presque j'étais complètement malade. Fait que juste pour ça, ça a vraiment mieux été. Mais non, c'était...
Et tu savais l'impact des chansons, parce qu'il y avait eu trois shows aussi, avec un public qui appuyait ces chansons-là.
Puis les gens qui étaient là dans la salle, pour la plupart, c'était des fans VIP qui avaient assisté au show interactif aussi. Donc, le public était vendu un peu d'avance, peut-être pour ça que j'avais pas trop de stress.
Andréanne, tu as décidé qu'il allait avoir des cordes sur ce disque-là.
Oui.
Que généralement, aucun producteur veut mettre sur un disque parce que ça coûte trop cher.
Ouais.
Comme tu es ta propre productrice, ben, tu as pu le faire.
Et comme je suis une très mauvaise comptable puis que j'ai pas vraiment de budget, je veux des cordes. Ouais, c'était vraiment trippant. Ça change tout.
Ça venait de où, ce désir-là? Est-ce que déjà sur Bohème, tu voulais ça?
Ouais, j'en voulais aussi. Mais je pense que c'était encore plus nécessaire pour cet album-là parce que le son folk est encore plus présent. Puis, ce que j'écoute, mes influences, il y en a beaucoup là-dedans. Puis, je suis un peu anti-instrument MIDI. T'sais, on peut tout faire avec un ordinateur, mais ça sera jamais comme les doigts qui glissent sur des vraies cordes de violoncelle. Là.
Et là, après ça, est-ce qu'on les amène live, ces gens-là?
Ben,
parce que c'est le même problème,
ben,
ça coûte cher.
Mais j'aimerais ça pour la rentrée montréalaise, là. J'ai pas encore confirmé avec eux, ils savent pas, mais j'aimerais bien ça qu'ils soient là. Deux violons puis un violoncelle.
Et tu l'as senti tout de suite, l'apport que ça avait sur tes chansons, évidemment, en studio.
Absolument.
Parce que toi, quand t'écris, ils sont pas là, bien sûr.
Ils sont dans ma tête.
Ils sont dans ta tête. C'est jamais comme quand c'est un professionnel qui
non,
le fait.
Non, j'ai pleuré toute la journée.
Pour vrai?
La journée qu'on a traqué les cordes, là, j'arrêtais plus de... non, mais bon, on dirait que cet instrument-là est relié directement avec mon cœur, c'est fou.
C'est Luc Tellier qui co-réalise avec toi. Pourquoi Luc?
Pourquoi Luc? Ça a été...
Tu le connaissais pas personnellement?
Pas tant. Ben, un peu, je l'avais déjà croisé, mais ça a été... C'est mon copain, en fait, qui connaît beaucoup de gens, puis il m'a nommé quelques noms, qui pensait qu'il pourrait
être... Ton copain qui est musicien.
Ouais, qui est batteur. Puis là, il m'a nommé Luc, puis ça, on dirait instantanément, ça a fait « Ah oui! » L'instinct a fait « Ok, on fait ça. » J'ai essayé, on s'était dit « On fait une chanson, on a fait fou. » Je me suis dit « Ça va bien, on fera le reste. » Puis finalement, on s'est regardé, on fait « Ouais, je pense qu'on va continuer ensemble. »
Et d'ailleurs, c'est pas fou qui t'a permis de produire l'album?
Ben c'est sûr que...
Parce que les droits d'auteur...
Je les ai pas encore reçus,
non, mais
c'est long.
On le calcule dans la tête.
Mais ben, je suis pas une bonne comptable. sais pas c'est ce que ça représente exactement. Mais c'est sûr que le risque financier était moins grand, sachant que j'avais ce coussin-là qui s'en venait. Parce qu'on va se le dire, on le redit, ça coûte cher. Il y en a qui hypothèquent leur maison, qui vident leur poche à essayer de faire un album, puis tu sais pas si tu vas en vendre assez pour rentabiliser. Donc, fou m'a permis de faire comme « Ok, go, je le fais, puis au pire, ce sera ça qui me remboursera. »
Et devenir productrice, quand on dit que l'industrie va mal, est-ce que c'est un risque, on prend?
Moi, je...
Mais toi, tu dis que ça va pas si mal que ça.
Ben, c'est que je suis du genre à tout le temps essayer de trouver des solutions. Puis quand il y a un problème, ben, ça vient avec des solutions. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, moi, on me dit, l'industrie va pas bien, il n'y a plus d'argent à faire, les gens vont plus voir des spectacles. Ah, OK. Bon, ben là, j'ai créé la tournée feu de camp. Je vais aller voir les gens chez eux. On me dit, les gens achètent plus d'albums. OK, bon, ben qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait leur vendre plutôt un concept, quelque chose qui fait s'impliquer dans le projet. Donc là, ça a été les shows interactifs, le projet Fan VIP. Donc moi, ça me rend très créative, en fait, le fait que ça va pas si bien que ça.
C'est toi qui crée tes chansons. Évidemment, pour le premier album, c'est un condensé d'une partie de vie. Il y a des chansons écrites au fil du temps. Quand on arrive avec un deuxième, le temps est beaucoup plus restreint.
Ouais.
Est-ce que c'est dur d'écrire sous pression en disant, ben, faudrait idéalement... Il y a eu un disque 2 ou 3 ans après le premier,
théorie.
La logique, idéalement.
je suis du genre à attendre après l'inspiration. Là, j'ai pas pu, donc j'ai forcé la création, puis ça a donné lieu. C'est drôle parce que je réalisais très récemment que la plupart de mes chansons du deuxième album sont à l'impératif, c'est ça, quand je donne des ordres à tout le monde.
Et ouais.
Dans mon album, je suis comme danse les pieds sur la table, pars, ne te retourne pas. T'sais, tout le long de l'album, on dirait, je fais comme toi, fais ça. Tout ça pour dire que ça m'a comme sorti de mon petit nombril, là, puis d'arrêter de dire je, moi, je vais pas bien, les hommes sont pas fins. Fait que le deuxième
album.
Mais
là, les hommes sont fins.
Ouais, ils sont rendus fins. Fait que là, j'étais bien mêlée, j'ai écrit des tonnes d'amour.
C'est dur, ça, d'ailleurs. Parce qu'évidemment, pour le premier.
C'est dur quand ça va
bien.
Chapeaux,
non, mais. Il y a des chansons, on dit souvent qu'on écrit mieux quand ça va pas bien.
Absolument, c'est vrai.
Parce qu'il y a quelque chose à sortir qui va se... Ça devient un exutoire.
Le danger du positif, c'est que ça devient cliché ou cheesy en bon français.
Oui.
Fait que c'est difficile d'écrire quelque chose de beau et d'heureux sans utiliser soleil, fleurs, puis...
Cœur. Puis on veut pas faire 12 chansons de « Je t'aime, chérie ».
Non, c'est ça. Fait que c'est de trouver la façon de l'amener. Puis j'en ai 2-3, je pense, quand même, sur l'album qui sont des belles chansons d'amour positif. Ça a été un défi. Mais c'est ça. Principalement, ça a été de sortir de mes petits problèmes puis d'en faire des chansons des fois plus... comment dire, inclusive. Puis j'avais le goût de m'adresser directement. Avec le deuxième album, je le sais maintenant que j'ai un public. Le premier, je savais pas. Je pensais que j'étais juste toute seule dans mon sous-sol. Là, maintenant, je sais qu'il y a des gens qui me suivent. Puis j'ai envie de m'adresser à eux. C'est pourquoi il y a plusieurs chansons qui s'adressent directement à l'auditeur.
Mais est-ce que ça ajoute une pression de dire qu'il y a des gens qui attendent l'album? Oui, parce qu'au premier album, on le sait un peu. Dans ton cas, on le savait parce qu'il y avait eu toute la machine autour. Ouais. Mais est-ce que ça met une pression sur toi comme auteur de dire qu'il y a des gens qui attendent concrètement des nouvelles chansons, un disque, et les gens t'écrivent en plus, j'imagine, pour te le dire.
Ouais. Quand est-ce que ça s'en vient, exactement. Oui, il y avait une pression, mais c'est drôle. Quand j'ai sorti le premier, tout de suite, j'ai eu une pression pour le deuxième. Je me suis dit, le deuxième, c'est tout le temps là, ça passe ou ça casse, c'est celui qui démontre si c'est ta place ou non. Puis quand j'ai décidé de m'autoproduire, cette peur-là est complètement partie. Je me suis dit, ça me ressemble tellement, c'est tellement moi, je peux avoir absolument aucun regret et aucune peur par rapport à cet album-là, parce que voici ce que je suis, t'sais. Fait que si ça passe... c'est bon. Si ça passe pas, c'est mon problème. Puis, je sais pas, ça a enlevé toutes les craintes que j'avais.
Mais est-ce que c'est vertigineux? Tantôt, tu parlais de mise à nu, c'est ça, là? C'est clairement
Il faut
ça,
croire
là.
Que je suis un peu exhibitionniste parce que j'aime ça.
Parce que c'est confier des bouts de sa vie et là, en plus, tout ce que tu penses à travers la musique à un public que tu connais pas tant.
Bien, c'est sûr que le deuxième est un peu moins autobiographique. Je suis allée m'inspirer de trucs qui se passent autour de moi. Donc, ça devient plus un journal intime collectif à ce moment-là. Il y a une portion de moi qui est là-dedans, c'est sûr, mais c'est plus grand que moi, je te dirais.
Est-ce que Maxime a été impliqué dans le projet?
Absolument, oui. Oui, ben il a fait tous les drums, toutes les percussions. Il a aussi été le chauffeur, le runner qui est allé chercher les dîners. Puis il a été super impliqué. Il chante aussi.
Ouais.
Dans deux chansons, on l'entend
chanter.
Ce qu'il
ne fait pas généralement?
Non, il y a comme juste un vidéo de lui qui chante, puis c'est du screamo death metal. Fait que c'est comme son premier enregistrement officiel.
Mais c'était important qu'il soit dans le projet pour toi?
Oui, ben tu sais, au début, quand on s'est rencontrés, j'avais quand même mis ça au clair que je voulais séparer amour et travail parce que je trouvais ça dangereux. Puis on est tellement dans le même milieu, on vit tellement les mêmes affaires que par défaut, il a comme été automatiquement impliqué. Puis je considère que c'est le meilleur drummer du Québec, donc j'aurais été bien niaiseuse de ne pas le prendre.
Mais c'est dur de séparer après. De dire on n'en parle plus.
Oui, mais on est les deux très, très professionnels, très capables de séparer les choses. Fait que si jamais j'aimais pas ce qu'il faisait en studio, Max, ça c'est pas bon, on recommence. Lui, il a pas d'orgueil, puis il fait parfait. Il est au service de l'œuvre. Quand il travaille, même chose pour moi. Donc on est assez bon là-dedans pour séparer les choses finalement.
Le public qui a assisté aux trois spectacles où ils ont entendu les chansons pour la première fois, est-ce qu'ils t'ont écrit depuis la sortie de l'album? Est-ce que tu as eu des comebacks de ces gens-là? Est-ce qu'ils sont contents d'avoir leurs chansons pour lesquelles ils ont voté sur le disque?
Ben, la plupart des commentaires que j'avais, c'était l'étonnement d'entendre une chanson version acoustique puis de l'entendre arrangée. C'est ça qui a surpris les gens le plus. Mais je les vois souvent, les gens qui ont participé aux trois spectacles, c'est des fans VIP, donc sont invités souvent à venir voir les spectacles, ils ont des privilèges.
C'est ce qu'ils avaient en assistant à ces spectacles-là, ils devenaient fans VIP?
Ouais, okay. Il y avait l'album puis certains privilèges aussi, là, que justement, je fais tirer souvent des billets de spectacle, ils ont des rabais sur les articles promotionnels, il y a plein de petits trucs.
Mais en même temps, c'est un cadeau pour toi d'avoir un public fidèle.
Oui, absolument.
Qui embarque avec toi dans l'aventure.
Absolument, puis on se le cachera pas, c'est ce qui m'a permis de produire l'album aussi. Ces spectacles-là, ça se voulait aussi un peu un Kickstarter live, sociofinancement.
Ouais.
Moi, je trouvais ça un peu plate de le faire via une plateforme web.
Y as-tu pensé? Est-ce que c'était dans les éléments de départ dans ta réflexion de dire on pourrait faire ça?
Je sais pas pourquoi je voulais pas aller vers ça. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup qui le faisaient. Je trouvais ça impersonnel, c'est derrière ton ordi, je sais pas trop. J'avais le goût de faire quelque chose avec eux, vraiment. Présent sur place.
Et eux, ils ont l'impression de participer au processus de création.
Oui, puis on va se le dire, ils m'ont aidé beaucoup aussi. Il y avait ça aussi, j'avais besoin d'un directeur artistique, puis c'est eux autres.
Est-ce que ça a été dur de choisir les 20 chansons que tu allais présenter?
Non, c'est tout ce que j'avais.
Il n'y en avait pas d'autres?
Non. C'était les 20 chansons que j'avais écrites.
Il fallait qu'il y en ait une coupe.
Sinon, j'en aurais écrit des nouvelles, mais dans l'année et demie, les deux ans que je me suis plongée dans l'écriture, ça a donné à peu près 20 chansons.
Fou a tourné énormément, on l'a dit tout à l'heure. Elle n'a pas été en nomination comme chanson
à la 10,
de l'année.
Non, oui.
À la 10.
En effet.
Il y a beaucoup de gens qui ont pris ce débat-là et qui en ont parlé dans les journaux. Tu es allé au gala de la disque. Ben, oui, t'étais sûr. Là. Oui. Comment t'as réagi? Est-ce que ça t'a fâché? Est-ce que ça t'a déçu?
Honnêtement, je m'attendais un peu à ça. Je comprenant de la façon que ça fonctionne.
C'est les boîtes de disques qui sont inscrites à la disque.
Ben, c'est ça. C'est une société, tu sais. C'est des membres à disque qui sont là. Je ne suis pas membre à disque. Donc, si eux se font un gala, c'est sûr que en théorie, je ne suis pas invitée. Est-ce que je ne fais pas partie de la gang? Fait que je m'attendais un peu à ça. Mais les gens ont vraiment pris ma défense. Ça l'a offusqué plus mon public que ça m'a offusqué moi. Moi, ce que ça me dénote, c'est qu'il y aurait probablement quelque chose à faire au niveau de la disque pour s'ajuster parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'autoproduisent puis il y a un clash de plus en plus grand entre ce qui est mis de l'avant au gala puis ce qui est réellement dans les radios, justement, puis ce que le public écoute. Fait que, à mon avis, il devrait s'ajuster tranquillement.
Mais est-ce que ça t'a étonné, cette prise de position-là dans les journaux, parce que ça a vraiment fait un débat autour du gala de la disque avec cette chanson-là? C'est vraiment ta chanson
particulièrement,
qui est ressortie,
oui.
Parce qu'il y, aurait pu en avoir d'autres.
Je pense que c'est l'aspect autoproducteur justement qui a fait ressortir ça, parce que Deux Frères n'étaient pas en nomination non plus, alors qu'ils sont numéro un partout, tu sais. Fait que oui, je pense que c'était juste de noter qu'il me manque peut-être une ouverture à ce niveau-là, ou de modifier la façon de voter. C'est les membres qui votent, donc par défaut, ils votent pour leur poulain. Pas plus niaiseux qu'un autre, je ferais la même affaire, honnêtement. On vote pour les gens qu'on aime, pour les gens qui travaillent avec nous. Donc, ce serait peut-être ça, de vérifier la méthode de votation.
Est-ce que tu savais déjà, après le premier album, où tu allais aller musicalement avec le deuxième album? Est-ce que tu savais ce que tu voulais plus, ce que tu voulais encore? Est-ce que c'était défini pour toi?
Quand même. Je voulais aller pas mal à la même place que je voulais aller avec le premier, mais que j'avais peut-être pas les outils pour le faire avec le premier. Donc, j'avais encore les mêmes idées en tête, quelque chose de très folk, quelque chose justement avec des cordes, avec des instruments, tout organique. Il y a beaucoup de... Écoute, il y a des cuisses dans mon album, là. Il y a des mains sur des cuisses, il y a des souliers sur le plancher, il y a des chaînes sur le mur, il y a vraiment un trip de
son.
Ce
qu'on essaie toujours de corriger, finalement.
Ouais, non, moi j'aime ça, les doigts qui glissent, justement, trucs, les petits trucs qu'on sait.
Qu'on
c'est
enlève
des humains
tout le temps.
Ouais, moi je les garde. Il y a même un loup sur l'album qu'on a entendu sur Seul. Il y a plein d'affaires. Il y a des oiseaux. On a laissé tout ce qu'on entendait.
T'es allé l'enregistrer à la nature, non, ce disque-là?
J'allais l'écrire dans le bois. Okay. Je l'ai enregistré en partie chez Luc et au studio Réservoir Audio.
OK. Pourquoi t'as besoin d'aller écrire...
Dans le bois?
Ouais, dans le bois. Est-ce qu'il y a besoin d'être seul avec toi-même d'abord?
Oui, ça écrit mieux. C'est deux choses. Premièrement, la réflexion, c'est je vais avoir rien d'autre à faire. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas rien. Fait que je m'en vais écrire, puis je m'oblige à écrire, mais je suis vraiment pas bonne. Je procrastine même quand je suis obligée. Je suis dans le bois, puis je suis comme « Ah, on va aller prendre une marche. Ah, je vais faire un feu. Ah, je vais lire. Il y a une montagne. Kayak. » Tu sais, je fais tout avant d'écrire une chanson. Mais c'est quand même moins que « Oh, faut faire le lavage, oh, faut faire les répondre aux courriels, tout ça. » Je me bloque certaines tâches, là.
Mais est-ce que c'est dur de dire « OK, cette période-là, je la garde pour écrire des chansons? » Parce que tu l'as dit.
J'attends après l'inspiration.
J'attends après l'inspiration, mais là, il faut que tu la provoques. Là. Si tu t'en vas dans le bois pour écrire, c'est ça l'objectif. Là.
C'est très rare. Je pense que j'ai pas réussi à terminer une chanson dans mes périodes d'écriture, mais j'ai commencé plein d'affaires. Puis le fait de forcer la création, ça fait ressortir des trucs que j'aurais pas écrits sinon. Fait que c'est souvent des bouts de tunes, moi, un petit peu partout, dans le bureau, à 3 heures du matin, dans le métro, dans le
que
bois.
Que t'enregistres avec ton téléphone?
Ouais, puis que j'écris dans mon ordi. Je travaille beaucoup à l'ordinateur pour pouvoir changer les affaires de place.
Oui, oui.
Puis au bout du temps, après une couple de mois, une couple d'années, tout se place, puis ça devient une chanson.
Donc, est-ce que tu retournes lire les trucs d'avant, par exemple, sur cet album? Est-ce qu'il y a des bouts de chansons qui ont été écrits avant, par exemple, qui datent d'un peu plus longtemps?
Probablement, oui. Je te dis ça. Je regarde ça vite. Oui, ben tu vois, mettons, Prendre le temps, c'est parti d'un voyage dans l'Ouest canadien où est-ce que j'étais dans un parc, puis j'étais devant une rivière, une montagne, puis j'avais commencé à écrire quelques trucs jusqu'à ce que je me retrouve au chalet dans la même situation, mais avec une montagne juste un petit peu moins grosse. Puis là, la chanson est née, mais plusieurs mois après que j'ai eu l'idée initiale.
Donc, tu lis, tu corriges, es-tu dur avec toi-même en création ou pas vraiment?
Au niveau du texte, oui, beaucoup. Jusqu'à temps que ça soit parfait pour moi. Chaque chanson, chaque mot qui sont sur cet album-là, je les assume. On prend Fou, par exemple. la phrase « je m'ennuie de mon meilleur ami », j'ai essayé de la changer 1000 fois parce que je la trouvais pas belle, jusqu'à ce que je me dise « crime, je m'ennuie de mon meilleur ami ». C'est vraiment ça que je veux dire, donc je l'assume à 100% parce que c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Même chose pour des petits gars pieds dans la Yamaska, je voulais donc le changer, je trouvais ça pas beau. Finalement, c'est la phrase que tout le monde accroche dessus, puis oui, c'est vraiment l'image que j'avais, des petits gars les pieds qui pendent dans l'eau. Fait que des fois, je me bats contre moi-même pour aucune raison, finalement.
C'est l'album qui t'amène à tes 30 ans.
Ouais.
Oups!
Ouais.
Est-ce que ça te dérange, la trentaine?
Je pense pas. Non.
OK.
Je trouve... moi, j'ai bien aimé 26, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on m'a pris au sérieux. Puis j'étais comme plus une enfant. Fait que ça a été l'étape... Pour moi, mon 30 ans, c'était 26, je te dirais.
Okay.
L'adulte, là, est arrivé à 26. Ma face d'adulte est arrivée à 26 aussi.
OK.
Je suis plus capable de prendre des photos pareilles comme avant. Ça me prend un angle puis une bonne lumière.
Oh!
Mais non, le 30 ans, c'est un chiffre rond, mais je pense que je vais aimer ça, la trentaine, honnêtement.
Et c'est aussi des textes qui changent, évidemment. Plus on vieillit, plus
ouais,
on change le propos. On n'a plus la même vision du monde qui nous entoure. J'imagine, on parlait de ça tout à l'heure. C'est ça aussi, là, c'est la vision qu'on a du monde autour de nous.
Oui, absolument. Puis ça devient plus précis aussi à qui je m'adresse. J'ai l'impression que le public vieillit aussi un peu avec moi. Pour la première fois de ma vie, je commence à sentir un décalage. Moi, tu sais, dans mi-vingtaine, t'es autant chômé avec les gens du secondaire. C'est comme, oh, c'est pas trop loin. Et les adultes, mais là, je m'éloigne un peu, je te dirais, des gens du secondaire tranquillement. Fait qu'il se crée des clashs générationnels. Puis mon public se précise justement de cette façon-là.
T'as lancé la tournée Feu de camp. Ça serait la 3e édition.
Oui.
Cette année, les deux premières éditions, c'était toi qui
entre
faisais
autres
les spectacles, entre autres. Là, cette année, t'es même pas là.
Non. Ouais. Exactement.
Parce que trop occupé.
Ouais.
De ton côté, donc, c'est d'autres artistes qui se déplacent chez les gens. Comment est arrivé d'abord cette idée-là? On parlait tout à l'heure de dire, ben, les gens viennent plus, donc on va aller chez les gens.
Oui.
C'est comme ça que ça a parti, non?
Ouais, c'est une idée que j'ai eue en rêve. Il se passe plein d'affaires dans mes rêves. Cette nuit, j'ai rêvé un papa hibou qui avait eu des bébés chats. Mais ça, c'est une autre histoire.
Ce qu'on ne verra pas en tournée, mais peut-être dans un livre jeunesse, éventuellement.
Fait que l'idée m'est apparue en rêve. Je me suis réveillée et j'ai dit, my God, c'est vraiment une bonne idée pour plusieurs raisons. Je trouve que, justement, les gens sortent moins. Je voulais aller chez eux. Je trouve qu'on perd tranquillement le contact humain, surtout à Montréal. Tu souris à quelqu'un sur le trottoir et il pense que tu veux l'agresser ou quelque chose. Fait que de ramener ça, les Québécois, on est bons là-dedans en plus pour se faire des soirées de cuisine puis de feu de camp puis d'aller à la rencontre de mon public. Il y avait ça aussi. Puis ça a eu une réponse incroyable, honnêtement. L'année 1, quand je l'ai annoncé, on a reçu à peu près 200 demandes. J'ai booké tous mes jeudis, vendredis, samedi, dimanche de l'été, donc une quarantaine de shows. Et l'année d'après, je me suis dit, c'est trop cool, je le refais, mais je vais faire profiter de cette idée-là à d'autres artistes. Donc, j'ai ajouté 3 autres personnes avec moi. Je voulais tester aussi, voir si le concept fonctionne sans moi.
Ouais.
Puis oui, ça fonctionne. Puis c'est ça qui arrive cette année. Je le produis. Je suis à l'extérieur, mais il y a 5 personnes qui vont aller faire les spectacles.
Pascal Picard,
ouais.
Jean-Marc Couture, Yvan Penneau, Céleste Lévy.
François Lachand.
François Lachand.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il y a eu?
Non, mais tu l'avais, je t'ai coupé.
Alors, pourquoi tu as choisi eux? Est-ce que c'est eux qui t'ont appelé? Est-ce que c'est toi qui les as approchés? Comment s'est faite la sélection?
François était là l'été passé, il a trippé, il voulait le refaire. Sinon, les autres, c'est un peu moi qui les ai approchés. Pascal, je trouvais qu'elle avait le profil idéal pour ça.
Préparer un disque en plus.
Oui, exactement. Ben, c'est ça, la tournée Feu de camp, c'est un bon entre-deux. Entre deux albums, la tournée est terminée, qu'est-ce qu'on fait? On fait les Feux de camp. Puis ça prend des artistes qui sont sympathiques, faciles d'approche, qui peuvent s'accompagner à la guitare, s'autosuffire avec un petit système de son. Ça prend un système débrouillardiste quand même.
Oui, oui.
Quand même pas pire.
Oui, parce qu'il n'y a pas de roadie.
Il n'y a surtout pas de loge non plus. Tu arrives, tu fais bonsoir, sont où vos toilettes? Je peux-tu avoir du méchoui? Puis on s'installe, tu sais. Fait que ça prend, c'est ça, des gens pas trop gênés.
Et les gens qui veulent ces shows-là, ils font comment? Parce que là, c'est le public qui peut les acheter, ces shows-là. Là, on reçoit
exactement,
ça dans
ouais.
notre cours, donc comment ça fonctionne?
N'importe qui a un feu de camp, en fait. Oui, le public directement.
Ça prend un feu de camp?
Ben oui.
OK. Absolument. Obligé.
Obligé, sinon, okay. C'est pas la tournée feu de camp. C'est l'élément clé. Mais il y a des terrasses de restaurants qui ont fait des spectacles, il y a des campings aussi. Mais c'est tourneefeuxdecamp.com, tout est là. Il y a une section « Faire une demande ». Nous, on reçoit votre demande. Donc, c'est quoi votre événement? Vous êtes combien? C'est où? Quel artiste vous voulez? Puis à partir de ça, on peut donner une idée du tarif.
Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui prennent la tournée pour des anniversaires, des
ouais.
événements spéciaux.
C'est souvent, je te dirais, là, pour que ça devienne rentable, une quarantaine de personnes réunies ensemble. C'est là que ça devient intéressant parce que...
Ou les gens, la personne qui vous book charge
le tarif,
là,
exactement. Ça revient moins cher qu'un billet de spectacle à ce niveau-là, à ce moment-là. Donc, puis t'as l'artiste dans ta cour. Fait que c'est abordable.
Et qui chante son répertoire et des covers.
Des classiques de feu de camp.
Donc, tu as chanté quoi, toi? Tu chantais du Paul Piché?
Non, j'ai chanté du Beau Dommage, du Jean Leloup, du Okoumé, du Caïn, une coupe d'affaires. Je me suis fait demander une fois La Petite Grenouille, je la connais pas, malheureusement.
Tu vois pas chanter ça?
Non, je me sens que c'est pas moi.
Chanter du Vallière, parce que j'ai lu une entrevue de toi où tu disais que c'était ta chanson de feu de camp, c'était On va s'aimer encore.
C'était notre appel, puis à chaque fois qu'on la faisait, les gens se levaient puis dansaient, puis on finissait la soirée en espèce de slow généralisé autour du feu, c'était vraiment cool.
C'est quand même les premières fois qu'on fait ça, parce que quand on fait des shows dans des salles, on voit la première rangée, peu la deuxième, puis c'est tout. Là, t'es en face, il n'y a pas de système d'éclairage qui finit plus, ils sont là. L'éclairage, c'est le feu de camp.
Il y a vraiment eu une évolution dans les deux étés. Judith et moi, je me rappelle du show numéro 1. Bonsoir! On est là pour faire un spectacle super gêné, on voulait pas déranger, puis c'est ça, l'été numéro 2, c'était « Salut, on s'installe! » C'est vraiment ça. Mais ça crée des relations incroyables. T'sais, on est allé à Trois-Rivières faire une entrevue, puis il y a une dame qui s'appelle Claire, chez qui on est allé, qui est venue nous voir en entrevue à la radio juste parce qu'elle s'ennuyait de nous autres. Puis on était invités à dormir là, n'importe quand. J'ai des doubles de clés de chalet partout. Puis j'ai des petites familles partout à travers le Québec.
Est-ce qu'il y a des gens qui rebookent systématiquement chaque année?
Oui, il y en a. Absolument.
Donc, c'est bon signe pour la productrice. Ça veut dire que ça marche bien?
Oui, ça marche bien. Tranquillement, je vais devoir, je crois, me monter une équipe puis carrément avoir des employés pour ça. Là, présentement, je fais encore presque tout toute seule. J'ai quelques personnes qui m'aident, mais ça prend des ampleurs bien cool.
Est-ce que les gens choisissent l'artiste qu'ils veulent?
Oui.
OK.
Absolument.
Donc, selon les disponibilités?
Exactement. Selon les disponibilités. C'est pas tous les artistes qui ont exactement le même coût non plus.
J'imagine.
Puis ça dépend si c'est vraiment loin, ben on s'ajuste aussi. Mais oui. C'est vraiment à la convenance de. L'idée, c'est de pouvoir offrir aux fans l'opportunité d'avoir leur idole dans leur cours. C'est vraiment ça.
Et ça va de combien à combien?
Je dis ça parce de personnes?
Qui... Non, de le coût. Parce que je dis qu'il y a des gens qui nous écoutent, donc pour se faire une idée.
J'aime pas ça le dire parce que ça dépend de tellement de facteurs. Fait que j'aime mieux donc, pas donner une idée. Mais comme je disais, une quarantaine de personnes, ça revient moins cher qu'un billet de spectacle par personne.
Et en plus, c'est plus intime. C'est
vraiment, c'est ça.
On invite les gens donc à
tournerfeutdecamp.com, tout à fait.
On parlait de Luc Tellier tout à l'heure, mais tu as co-réalisé.
Oui.
C'est important pour toi de le faire?
Oh, je me suis donné ce titre-là parce que Luc était très à l'écoute, puis que moi, quand j'écris une chanson, ça s'arrête pas à guitare-voix, j'entends plein d'affaires, donc j'ai pas ces skills de manipuler les ordinateurs et tout ça, mais j'ai les idées. Fait que je disais, dans telle affaire, j'entends tel truc, je veux tel instrument, voici la mélodie que j'entends, puis lui était les mains.
Mais est-ce que c'est dur de pas devenir control freak à ce moment-là?
Non, mais...
Il faut se laisser aussi porter par les idées
Des autres. Oui, absolument. J'étais très ouverte aussi. Il y a une grande portion de création. Tous les musiciens qui sont venus ont fait une portion créative aussi. Mais on était un beau duo, je te dirais. C'est d'où le co-réal, parce qu'on se challengeait les deux.
As-tu l'impression d'apprendre tout le temps?
Vraiment.
Parce qu'évidemment, avec ce nouveau côté-là qu'on disait tout à l'heure de productrice, c'est plein de nouveaux problèmes et de nouvelles solutions aussi.
Oui. Ben, je me suis donné
donc, t'apprends tout le temps?
Je me suis donné le défi, moi, d'envie d'apprendre quelque chose à chaque jour. Fait que je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de livres audio, comme je te disais. Puis c'est sûr qu'un processus comme ça, où tu as les deux mains dedans, j'ai appris énormément. Une des raisons pourquoi j'ai décidé de m'autoproduire aussi, c'est que les gens que j'ai rencontrés, les boîtes de disques, me disaient toutes. Ben, certaines me disaient, oui, on est intéressés, mais ça va prendre à peu près un an et demi avant de pouvoir le sortir. J'étais comme, c'est ben trop long! Finalement, ça m'a pris un an et demi le sortir toute seule aussi. Mais c'est
donc,
juste...
t'as compris pourquoi?
J'ai compris pourquoi, mais ça a paru beaucoup plus rapide parce que normalement, la portion artistique dure 2 mois en studio, puis après ça, tu tournes les pouces et t'attends. Là, moi, chaque étape, j'avais les deux mains dedans, fait que ça a passé vite, puis ça a été super palpitant pour moi.
As-tu l'impression, à un moment donné, de t'en avoir trop mis sur les épaules? As-tu eu cette réflexion-là ou pas vraiment?
Ça fait 2 ans que j'ai pas fait un petit voyage. L'autre jour, on avait un party, j'ai quitté vers 8h30. Pourquoi? La tournée feu de camp. Faut que j'aille répondre à des courriels. T'sais. Fait que mon horaire, je me couche pas mal tout le temps. J'arrête de répondre à mes courriels vers minuit. Là. Mais je me lève tard. Je me fais mon propre horaire, mais je travaille très fort. Là. Ce que les gens voient pas, c'est moi qui bûche pas mal fort sur mon...
C'est tes proches qui sont sacrifiés là-dedans, en quelque part?
Oui, mes proches, moi-même, mes amis, c'est sûr que je suis pas aussi présente que je l'étais. Je pense que c'est un gros coup à donner, par exemple, présentement, puis qu'éventuellement, quand ma petite entreprise sera mieux structurée, ben, je pourrais déléguer une certaine portion puis me permettre d'aller 2 jours à Hampton Beach.
As-tu le souhait de produire d'autres artistes éventuellement? Tu le fais avec Feu de camp, mais d'autres albums, par exemple?
Éventuellement, si je faisais ça, ce serait avec des artistes qui ont un côté entrepreneur aussi.
Qui pourraient être maîtres de leurs choses, mais même ta boîte, dans le fond.
Exactement. J'ai besoin de gens qui ont une vision, qui travaillent sur leur truc. J'aurais pas le temps et l'énergie de faire pour eux, mais je pourrais les aligner pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes bien. Ça, je pourrais le faire.
Et là, c'est la tournée pour toi?
Oui.
Qui débute?
Ouais.
Qui est commencée?
Qui est commencée le 24 janvier.
Et est-ce qu'il y a un mélange des deux albums dans le spectacle? Est-ce que les chansons du premier cadrent avec le deuxième ou tu les as retravaillées pour qu'elles sonnent comme tu souhaites les entendre?
Elles cadrent surprenamment quand même assez bien. Il y a beaucoup plus de chansons du deuxième album, on les fait presque toutes. Il y en a 3-4, je pense, du premier. C'est sûr que l'incontournable est con là, qui est là. Puis certaines chansons qui ont bien marché, l'autre arrive, c'est sûr.
On n'a pas le choix, c'est les gens qui veulent les entendre.
Ben, ils ne m'ont pas dit, mais je présume.
Ils vont te le dire si t'es fait pas.
Exactement, c'est ça. Mais ça se passe super bien, c'est le fun. C'est une formule band, ça c'est la première fois que j'ai ça aussi. On est 2 gars, 2 filles, puis l'ambiance est vraiment cool. Il y a une complicité qui s'est installée sur scène très, très rapidement, entre nous, mais avec le public aussi. Ça fait des belles soirées, c'est cool.
C'est une énergie différente aussi,
ouais,
en band.
Totalement.
Est-ce que tu sens une aisance différente sur scène maintenant que t'as déjà une tournée dans le corps, et la tournée Feu de camp, bien sûr, aussi, qui t'a permis d'être très à l'aise avec très peu de gens?
Ouais, je pense que surtout la tournée Feu de camp m'a appris à être super authentique, puis vraiment moi-même dans toutes les circonstances. Tu sais, que si je faisais un show au Centre Bell, probablement que j'aurais la même attitude sur scène, à faire « bonsoir », puis à niaiser avec le public. C'est très intime, il peut y avoir 500 personnes, on a l'air d'être 10. Puis ça, je vais le garder toute ma vie, je pense. C'est la tournée Feu de camp qui m'a beaucoup appris ça.
Andréane, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. C'était très bon, en plus. Merci au restaurant.